Alors, ce que je vais essayer de faire avec vous dans les 20 minutes qui me restent et en allant rapidement et après ce grand débroussaillage dont je conviens qu'il reste pour l'instant très abstrait, je vais essayer de vous dire pourquoi cet impératif participatif a été tout à la fois une évidence est devenu finalement comment dire, alors c'est un peu tautologique, hein, une nécessité, et pourquoi, pour l'instant, la démocratie participative, c'est-à-dire toutes les formes de traduction de cet impératif dans la réalité de l'action publique, ont été un échec. C'est-à-dire pourquoi c'est une promesse qui n'a, pour l'instant, quasiment jamais été tenue. Pourquoi, finalement, les obstacles à l'inclusion des citoyens dans l'action publique ont eu raison de cet impératif. Et puis, je conclurai en disant que tout n'est peut-être pas perdu et que certains exemples nous permettent d'avancer dans la réflexion et certaines conditions peuvent être énoncées qui sont nécessaires à la réussite de ce programme. Alors, l'impératif participatif, inutile de vous dire qu'il est justifié par différents facteurs. Premier facteur, les transformations sociologiques de la population, à la fois l'élévation du niveau d'éducation, l'accès plus facilité à l'expression politique via les réseaux sociaux, qui ont conduit à un abaissement, hein, du coût de cette expression politique, conduisent finalement à changer le contexte de la représentation. Cet impératif participatif, il est justifié aussi par ce qu'on a déjà évoqué, c'est-à-dire par la défiance généralisé à l'égard de toute forme de représentation politique, d'intermédiation politique, qui condamne, d'un certain point de vue, à envisager d'autres formes d'association ou de légitimation de la décision. Cet impératif participatif, il s'observe aussi dans la capacité qu'ont certains citoyens, alors ça n'est évidemment pas un phénomène majoritaire, c'est un phénomène qui ne concerne pour l'instant que des minorités, qu'ont ces citoyens à s'auto-organiser, c'est-à-dire à finalement, en dehors de tout dispositif classique d'action publique, en dehors des institutions, à porter des projets, à gérer des communs, à se mobiliser pour se substituer à l'action publique ou pour initier finalement d'autres formes de vie. Bon, voilà. Il y a, et effectivement, je pense que ces citoyens-là sont précurseurs d'un certain point de vue, d'un changement assez important de paradigme. On pourra y revenir sur ces phénomènes d'auto-organisation, dont les plus spectaculaires s'observent évidemment dans les ZAD ou dans ce genre d'expérience, mais qu'on peut voir un peu partout, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, des citoyens qui s'assemblent, qui s'organisent de manière relativement horizontale et qui font vivre des espaces de discussion, mais aussi des projets, hein, qui relèvent pleinement d'une aspiration à des formes de vie plus démocratiques. Et puis, la participation, elle se justifie aussi par l'observation des limites de la division du travail politique qui a prévalu jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'en fait, avec le XVIIIe siècle, du libéralisme politique et économique, s'est imposé une vision de la citoyenneté extrêmement passive. C'est-à-dire qu'en fait, le citoyen a été construit par le libéralisme politique et par le libéralisme économique de manière conjointe comme un individu solitaire, égoïste, calculateur, porteur d'intérêts propres, hein, porteur de droits, mais incapable de coopérer avec les autres. Cette citoyenneté libérale, finalement, elle n'était pas le seul modèle de citoyenneté disponible. Certains ont redécouvert un autre idéal de citoyenneté qui était celui de la citoyenneté républicaine, qui nous vient de l'Antiquité. Hein, ce sont des auteurs anglais que certains d'entre vous connaissent, comme Pocock ou Skinner, qui ont exhumé cette vision très différente de la citoyenneté, dans laquelle le citoyen, finalement, n'obtient la liberté qu'à condition de participer à l'élaboration de la loi. Cette vision de la liberté qui consiste non pas à se défier du pouvoir, mais à construire soi-même et collectivement une vision du bien commun, cette citoyenneté participative ou républicaine, elle est en quelque sorte appelée par la situation actuelle. Je pense que si nous voulons aujourd'hui éviter l'effondrement général de nos sociétés, il va falloir que les citoyens apprennent de nouveau à coopérer, apprennent à s'organiser, apprennent à redevenir solidaires et désapprennent à se comporter en pur et simple consommateurs de services, consommateurs de droits. C'est-à-dire que finalement, il va falloir redécouvrir cet aspect-là de nos compétences. Il va falloir réapprendre à être citoyen. Et puis, deuxième raison fondamentale qui justifie l'impératif participatif, c'est la qualité même de la décision. La qualité même de la décision, non seulement sa légitimité, c'est-à-dire son acceptation, mais aussi sa justesse, elle est enrichie et atteinte par l'association de tous ceux qu'elle concerne à son élaboration. C'est la phrase que je cite régulièrement maintenant de John Dewey, le philosophe pragmatiste de l'entre-deux-guerres bien connu, américain, qui disait « C'est le cordonnier qui sait faire la chaussure, mais c'est le citoyen, c'est celui qui la porte qui sait le mieux là où elle lui fait mal. » Hein, vous voyez cette phrase de bon sens qui ouvre sur toute une réflexion sur la supériorité épistémique ou la qualité supérieure des décisions qui ont fait l'objet d'une délibération. Et c'est tout le programme théorique de la démocratie délibérative. Qui est aujourd'hui un peu malmené dans le discours présidentiel, hein, puisque le président ne cesse d'y faire référence, sans que l'on puisse être vraiment sûr qu'il renvoie à cet idéal théorique, c'est l'idée que une décision sera d'autant plus légitime et d'autant plus efficace qu'elle aura été l'objet d'une délibération qui inclura le plus grand nombre de ceux qu'elle concerne. Et toute cette réflexion sur la démocratie épistémique, hein, qui est portée notamment par ma collègue Hélène Landemort, qui suit en ce moment avec moi la Convention citoyenne pour le climat, c'est-à-dire l'idée et qui ne pourra jamais véritablement être confirmée empiriquement de manière complètement satisfaisante. Mais l'idée que plus les individus qui participent à la construction de la décision sont divers, et meilleures sont les chances que cette décision soit juste. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas le nombre qui fait la qualité de la décision. Un grand nombre de citoyens qui pensent tous la même chose et qui ont tous les mêmes types de savoirs ont de fortes chances de se tromper. Mais c'est la diversité du fait de l'enrichissement cognitif hein, que produit cette diversité. Ces théories de l'intelligence collective sont validées empiriquement elles ne sont pas par l'observation de tous les dispositifs d'intelligence collective que l'on met en place ici et partout. Et moi, je la valide aussi dans l'expérience actuelle hein, de la Convention citoyenne pour le climat. Nous avons des citoyens qui sont non pas représentatifs, mais extrêmement divers, et qui aujourd'hui sont en passe de réussir quelque chose de tout à fait incroyable, si on y réfléchit, d'élaborer une politique générale de lutte contre le changement climatique. Alors, on pourra revenir hein, sur les limites de ces attendus. Bon. Je vais être beaucoup plus rapide, parce que ça, c'est ce que vous vivez vraisemblablement tous les jours. Pourquoi cette promesse de la participation n'a jamais été tenue jusqu'à présent? Pourquoi la pseudo-participation a toujours chassé la bonne participation? Pourquoi la démocratie événementielle a toujours prévalu? Et pourquoi les dispositifs les plus aboutis, les plus sophistiqués, les plus sérieux, les plus robustes, n'ont jamais véritablement été institutionnalisés? Alors les raisons, elles renvoient évidemment à la culture politique. Là, une chose très claire, dans une monarchie démocratique, en tout cas qui se prétend comme telle, républicaine, comme la nôtre, la prévalence et l'inertie d'une représentation de la représentation fondée sur un modèle de transsubstantiation, hein, c'est-à-dire une fois que quelqu'un a été élu, avec toute cette mystique de l'élection, il peut se substituer hein, à ceux qui l'ont élu, et il peut finalement tout faire. Et cette vision de la représentation incarnation, elle est présente partout, à l'échelle nationale, à l'échelle locale, elle est confortée par la pratique que nous avons connue de la Ve République, cette toute-puissance de l'exécutif, hein, cette héroïsation du pouvoir de décision, il est un obstacle majeur à la diffusion d'une culture et de pratiques participatives. On a aussi l'obstacle que constituent les experts de la chose publique, les techniciens de l'action publique. Et on le voit très couramment dans les politiques participatives les plus ordinaires. Ces techniciens et ces experts perçoivent la participation comme une complication. Comme une complication, à minima comme une complication. Ça amène de nouveaux interlocuteurs, ça les amène à se situer parfois sur le terrain politique, en se confrontant aux citoyens, alors que les élus restent en retrait. Ça les amène à beaucoup de réunions le soir, hein, qui ne sont pas toujours payés en heures supplémentaires. Ça les amène à traduire finalement leur... Et puis ça les amène à intégrer des paramètres dans leur calcul de l'optimum technico-économique auquel ils ne parviennent pas forcément de manière évidente. Alors il y a des phénomènes évidemment de conversion, il y a des phénomènes d'apprentissage, il y a des phénomènes qu'on observe dans l'action d'un certain nombre de collectivités locales, c'est une évidence, mais la norme est celle de la résistance assez obsidional hein, de ce qu'on appelait les citadelles techniques à la participation et qui est renforcée par l'absence de formation à la participation. Hein, c'est-à-dire que nos systèmes éducatifs, en particulier les grandes écoles, ne préparent pas, ne diffusent pas l'éthos démocratique, ne conduisent pas à l'humilité techniciens, elles les conduisent plutôt à croire qu'ils détiennent la vérité. Autre adversaire de la participation, autre adversaire caché, les associations, ce qu'on peut appeler la société civile organisée. On l'a vu, et moi je l'observe, au premier chef, notamment par exemple au Conseil économique et social. Là, la crainte des syndicats, la crainte de ces grandes associations, c'est la crainte d'être court-circuitées, ou de disparaître, tout simplement. Elles ressentent, pour partie d'entre elles, cette participation comme une remise en cause de leur propre capacité à représenter la société. Et dans un certain nombre de cas, elles remettent en cause effectivement leur légitimité propre et leur fonctionnement démocratique propre. Et puis les citoyens. Les citoyens sont aussi parmi les adversaires de la participation. Pourquoi ? Parce que si on prend évidemment les citoyens ordinaires, là encore, je renvoie au système éducatif. C'est pour ça que je suis, depuis quelques années, très attentif à toutes les formes de pédagogie qui encouragent la coopération, qui encourage l'imagination, qui encourage et qui surtout ne punissent pas les citoyens. Ces citoyens n'ont pas été préparés à participer collectivement. Et puis, tout n'est pas purement culturel. La participation, elle se heurte aussi à des difficultés très politiques, qui conduisent à ce qu'elle produisent bien souvent de la frustration. Il y a trois grandes séries de difficultés qui suffit simplement de rappeler. La première, c'est que la participation, dans l'immense majorité des cas, renforce ceux qui sont déjà puissants, au sens où elle les place en position de force dès lors que on ne met pas en place ce que j'appelle, avec d'autres, des artifices d'égalité. Hein, c'est-à-dire si on ne prévoit pas finalement une redistribution des places et des capacités de prise de parole. Hein. Vous avez tous en tête évidemment l'exemple de dispositifs de participation où les plus éduqués, les plus intégrés politiquement, les plus à l'aise avec la parole publique font valoir leurs droits et leurs voix au détriment de ceux qui considèrent que soit ces espaces leur sont fermés, soit ne luttent pas à armes égales avec les puissants. C'est un obstacle majeur, c'est un obstacle qui n'est pas insurmontable, qui n'est pas, à mon avis, et on pourra y revenir, je pense que les acteurs faibles peuvent trouver une place dans les démarches de participation. On n'est pas condamné à cette reproduction des inégalités sociales par la participation. Deuxième problème, c'est le problème de l'échelle. Et ce problème, il est constant. Il y a ce premier problème qu'effectivement, il est beaucoup plus facile de faire participer quelques centaines de personnes que d'en faire participer des milliers. Et les interfaces numériques, d'un certain point de vue, sont impuissantes dans la plupart des cas à régler ce problème. On pourra y revenir. Hein, j'ai un peu travaillé là-dessus. Mais c'est le problème de l'échelle pertinente du dispositif participatif. Dans l'immense majorité des cas, c'est ceux qui se sentent spontanément le plus directement concernés par un projet qui vont se manifester. C'est ceux qui se sentent menacés par ce projet qui vont prendre la parole, alors même que ce projet ou cette décision peut intéresser un public beaucoup plus large. Et donc il y a une déformation presque inévitable de la participation. Or, le périmètre de ceux qui sont véritablement concernés et le périmètre de ceux qui vont effectivement participer divergent très souvent. Et puis le dernier problème, c'est le problème de la décision. Dans un cadre qui reste celui du gouvernement représentatif, dans lequel c'est le pouvoir politique qui est titulaire ou détenteur du pouvoir ultime de décider, la question est d'assurer une traçabilité de l'influence de la participation sur la décision. Or, c'est extrêmement complexe, sauf à remettre en cause complètement la logique de la démocratie représentative. Un représentant élu sur un programme ne peut pas et ne peut jamais renoncer à son pouvoir ultime de décider en disant « ce que les citoyens veulent, je le veux aussi ». Ce serait un non-sens. Ça poserait un problème politique tout à fait majeur. Il peut décider de co-construire, il peut décider sur des aspects mineurs des projets de le faire, il peut de temps en temps le faire, mais il ne peut pas, d'un certain point de vue, renoncer. à ce pouvoir de décider, et donc cette faible traçabilité ou cette faible influence de la participation sur la décision constitue un problème puisqu'elle amène une frustration, une déception qui conduit les citoyens à déserter les démarches dont ils considèrent à l'avance et à juste titre bien souvent qu'elles n'auront qu'une influence mineure. Et pourtant, j'ai encore 5 minutes, et pourtant elle tourne. Et pourtant, la démocratie participative marche quelquefois. Et pourtant, les choses ont changé sur un certain nombre d'aspects. Sur quels aspects? D'abord, on assiste à une professionnalisation à la fois des outils et des acteurs de la participation. Aujourd'hui, la gamme des dispositifs disponibles, des techniques de participation disponibles, elle est à peu près complète et, j'allais dire, validée. C'est-à-dire que, en fait, il y a des dispositifs pour tous les moments et tous les contextes de la décision. Il y a des dispositifs d'intelligence collective, d'imagination prospective ou projective qui fonctionnent très bien. Vous le savez, hein, dès lors que on doit agir ensemble, se projeter ensemble dans un avenir commun, il est très facile d'amener les uns et les autres à adopter une posture de coopération et de projection. Ça fonctionne très bien. Les dispositifs de consultation sont très robustes, qu'ils soient numériques ou pas. Les dispositifs de concertation le sont aussi. On a des instruments remarquables. La Commission nationale du débat public est, dans cet arsenal, un instrument absolument remarquable. Le budget participatif, dans ses différentes versions, a atteint un niveau de sophistication tout à fait intéressant, à condition qu'on y mette les moyens, à condition qu'on le prenne au sérieux. Il y a évidemment des pseudo-budgets participatifs un peu partout, mais si on regarde l'exemple de Paris, il y a eu un vrai changement et une vraie adaptation du système politico-administratif parisien au budget participatif, et ça fonctionne. Ce qui manque, évidemment, c'est les acteurs, et en tout cas, chez ces acteurs, la conviction que ces dispositifs peuvent avoir un intérêt. Il y a un décalage tout à fait saisissant entre la sophistication de cette ingénierie. À la Sorbonne, j'ai créé un master d'ingénierie de la concertation qui forme des spécialistes des démarches de participation. Et je peux vous dire que certains dénoncent ce marché de la participation ou cette professionnalisation, mais ils peuvent vous faire des dispositifs en kit avec une multiméthodologique, avec des stratégies tout à fait extraordinaires. Mais si vous avez à un bout du tuyau des élus qui n'en veulent pas, ou en tout cas qui s'en fichent complètement et qui ne s'y intéressent pas, et on n'a aucunement l'intention de faire quoi que ce soit de ce que vont produire ces démarches, et des citoyens qui ont bien compris de l'autre côté du tuyau, qui ont bien compris que tout ça ne servirait pas à grand-chose parce que les preuves antérieures ont été multiples qu'on les menait en bateau, il y a peu de chances pour que ça fonctionne. Donc on voit que le problème, il n'est pas dans les outils, il est dans les représentations. Et pourtant, ça fonctionne. Et pourtant, ça fonctionne. Comment? Pourquoi? Je pense qu'il y a quelques conditions qui doivent être réunies. Première de ces conditions, je l'ai déjà dit, la qualité, le professionnalisme, les moyens matériels et humains, ça ne s'improvise pas, très clairement. Il faut accepter d'y consacrer du temps, d'y consacrer des moyens. Deuxième condition, la sincérité. C'est un mot qui n'a pas grand sens, vous le savez, en politique, mais cette sincérité, elle doit être quand même une condition. Alors, sincérité de quoi? Sincérité du cadre, hein, c'est-à-dire sur quoi on peut vraiment agir, hein, collectivement. Sincérité des intentions. Est-ce que vraiment on considère que les citoyens peuvent apporter une plus-value à la décision? Cette sincérité du cadre. Et j'allais dire aussi cette humilité, hein, des acteurs, elle est fondamentale. La question de la posture, la question de la transformation personnelle, alors ça, c'est une conviction personnelle, alors, qui sera jugée peu sérieuse par les spécialistes hardcore de l'action publique, mais cette question de la transformation de la posture, elle est fondamentale, à la fois pour les citoyens. Je pense que les citoyens, en fait, et je crains que les citoyens ne soient pas armés psychologiquement, intellectuellement, j'allais même dire moralement, pour participer, mais a fortiori, les techniciens et les élus doivent radicalement changer de posture. Troisième condition, alors vous allez me dire, il enfonce des portes ouvertes, le courage. Le courage, parce que, vous le savez, le premier réflexe d'un politique professionnel, c'est la peur de ne pas être réélu, et donc la tentation de verrouiller pour que ses adversaires ne détournent pas ces dispositifs contre eux et pour qu'ils ne puissent pas être mis en difficulté. Courage, humilité, il faut accepter finalement le conflit jusque dans une certaine mesure. Il ne faut pas vouloir à tout prix le neutraliser. Quatrième condition, ne pas succomber au fétichisme des procédures. Je n'ai pas arrêté de vous dire qu'en fait, les procédures, finalement, le tropisme procédural dont parle ma collègue Alice Mazot, c'est une erreur. Les procédures, elles ne font rien, pas plus les civic tech que les jurys citoyens, ou etc. Les procédures ne sont rien sans les attitudes, hein, qui... Et puis surtout, une procédure ne peut pas répondre à toutes les questions. En fait, à chaque problème, à chaque configuration d'acteurs, à chaque moment de la participation, à chaque besoin, correspondent des techniques différentes. Et vous ne pouvez pas vous acquitter de votre désir d'associer les citoyens avec une seule procédure, aussi spectaculaire soit-elle. Autre condition, moi, qui me paraît tout à fait intéressante, c'est que il ne faut jamais être la dupe de ses propres dispositifs. Il y aura toujours des absents. Il y aura toujours des gens qui n'auront pas été rattrapés par les filets, même si vous avez mis toute la volonté politique nécessaire. Et donc, et c'est une des limites de la participation, aller les chercher. Les faire parler malgré eux, c'est une nécessité absolue, hein, si on ne veut pas que ces dispositifs déforment complètement la représentation. Et puis, moi, il y a quelque chose auquel je tiens. Il y a beaucoup de citoyens pour qui le discours, l'échange d'arguments, les prises de position politiques ne constituent pas une modalité possible ou désirable de participation. Mais il y a des tas d'acteurs qui sont prêts à agir, à faire ensemble, à contribuer par d'autres moyens que par le discours. Or, nous avons là un vrai tropisme discursif. Participer, c'est débattre. Oui, la démocratie, c'est le débat, mais la démocratie, ça peut être aussi autre chose. Ça peut être le chantier en commun, l'action en commun. Et ça, on le voit dans un certain nombre d'expériences qui fonctionnent. Moi, j'étais très frappé par les travaux sur les ZAD de mes collègues sociologues qui ont fait du travail de terrain très long. En fait, on débat très, très peu. On fait ensemble. Et on, par affinité, on construit ensemble. Et la légitimité de chacun, elle s'évalue à la hauteur de son niveau de contribution physique. Et on voit bien comment, à travers ça, on peut aussi déjouer les logiques sociales de la participation. Voilà. Dernier point qui me paraît capital, au regard, et ce sera mon dernier, je suis désolé, j'ai sûrement été trop, voilà, à la fois nébuleux et simpliste. Dernier point, l'impératif n'est pas forcément, ou en tout cas l'engagement que prennent les autorités politiques ou les décideurs, n'est pas tellement de suivre les citoyens, mais il est de se justifier. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un impératif de justification, de restitution a posteriori vers les citoyens de l'action ultérieure, c'est-à-dire de justification, de restitution. Il y a ce point qui est tout à fait intéressant, c'est que on considère, nous, en France, très souvent, et ça peut être différent dans d'autres contextes, que la participation, elle s'arrête au moment de la décision. Or, après, on le sait tous très bien, l'action publique, elle se forge et elle se forme dans l'application de la décision, dans la réalisation des projets. Et donc, il y a, voilà. Et avec tout ça, on n'a pas parlé de la Convention citoyenne, qui, pour moi, remplit une grande partie de ces conditions.